La revue L'encre de mer est partie par la poste. En voici l'expédition in situ depuis le bureau de poste de Sanary-sur-Mer. Un reportage de Pascal Marcaggi.
Alors, c'est collectif pêche et développement. Vous avez la carte pro, l'affranchissement.
Là, on a une partie des envois aux gens qui sont abonnés et aux officiels. Aussi les bibliothèques, bibliothèques nationales, etc. Donc ça fait pas mal de choses et malgré les vacances, on est sur le pont, quoi.
Il y en a combien qui vont partir d'encre de mer depuis le bureau de poste de Sanary?
Il y en a à peu près 600 pour la France. Enfin, après, il y a ceux qui servent de relais de distribution, donc ça fait 750 si on compte cela, même probablement plus, oui, 800. Et puis après, il y a quelques envois... à des partenaires qu'on a en Europe et puis aux députés européens aussi. Donc.
Alors l'envoi pour la France, on a fait, l'envoi Belgique.
En tout, je pense qu'on en distribue à peu près 1000, soit par des relais de distribution, soit directement. Et ensuite, on en a 1000 autres qui nous servent pour des rencontres, conférences.
C'est le numéro combien qui vient d'être bouclé?
Alors, c'est un numéro triple. Les autres numéros, à part les premiers, étaient doubles, c'est-à-dire qu'ils faisaient 20 pages. Et celui-là fait 32 pages, en fait. Donc, c'est le numéro 30-32.
Si on doit lire un dossier, c'est lequel?
Je ne saurais pas choisir. C'est plutôt l'ensemble qui est... C'est un ensemble de reportages de gens assez hétéroclites, de pays différents ou de régions différentes, de métiers différents, mais qui, tous à leur façon, sont enclenchés vers une nouvelle vision de notre vie en société et de notre organisation productive et de consommation aussi.
La couverture et le dossier sur Terra Madre, qu'est-ce que c'est Terra Madre?
Terra Madre, ça a été mis en place par Slow Food International et donc c'est une rencontre de petits producteurs du monde entier qui se retrouvent à Turin tous les 2 ans et qui échangent sur leurs pratiques, leurs expériences. Voilà, donc qui petit à petit font émerger une nouvelle vision de notre humanité.
Ce sont des gens que vous avez donc rencontrés?
Pas tous, on en a rencontré évidemment, oui. Terra Madre a une organisation extraordinaire et avec tous les moyens de traduction. En fait, on peut vraiment discuter avec quiconque, y compris des indigènes qui parlent dans leur langue et qui peuvent s'exprimer.
Bonjour.
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 Allez, là.
Je suis pas sourde.
Bonjour.
J'entends.
Ah, tu attends?
Oui.
C'est pas ce qu'on m'a dit, hein.
Il y a un sujet que vous avez fait, ça n'a rien à voir avec la mer en fait, c'est sur l'épeautre dans l'encre de mer.
Ah non, c'est le petit épeautre de Haute-Provence qui n'a rien à voir avec l'épeautre. C'est une céréale très différente qui a été très peu hybridée. Et donc il n'y a pas les inconvénients des céréales hybridées avec tous les problèmes d'allergie qui se développent depuis. C'est une céréale qui a des qualités nutritives extraordinaires mais dont j'aime beaucoup le goût. C'est un producteur qui avait retrouvé cette céréale parce que son beau-père la faisait traditionnellement pour lui. C'était un peu à l'origine là-bas, enfin, la soupe de gruau, donc ça n'avait pas une très belle image. Lui a trouvé que ça avait une vraie valeur. En plus, elle est assez rustique, donc on peut la cultiver facilement sans rien ajouter de particulier. Le rendement est ridicule par rapport au blé, évidemment. C'est pour ça qu'elle a été délaissée. Le goût, en fait, est très fin. Il y a un petit goût de noisette et du coup, s'est développé des tas de recettes. Des cuisiniers, restaurateurs sont amusés à justement le mettre en valeur. Ce producteur donc a beaucoup œuvré pour la faire connaître et puis la protéger, notamment par la culture bio et puis par une indication géographique protégée, une IGP. Donc c'est le petit épeautre de Haute-Provence qui, du fait de la relative altitude, disons, a des qualités particulières. Vraiment un produit à découvrir.
Avec un label dont on n'a pas l'habitude, et c'est toujours bon de lire L'encre de mer pour s'instruire et découvrir. On redécouvre bien sûr mes versions Daniel Thomas, cette fois-ci c'est la spiruline.
Oui, la spiruline c'est l'aliment de demain. On a un dossier de 5 pages là-dessus. La région est assez pionnière puisque le centre de formation agricole a mis en place la première formation publique pour le métier de spirulinier. Et finalement, en l'espace de 3-4 ans, ils ont formé plus de 600 personnes d'origine française ou étrangère. Et puis, ils ont aidé à protéger aussi cette production pour pas que ça soit aux mains de grandes firmes multinationales avec des brevets pour des intérêts privés.
L'encre de mer, votre autre force, en dehors du fait que vous enquêtez vraiment, vous faites les choses à fond, Elisabeth Tampier, il ne faut pas rougir comme ça. C'est votre lien aussi créé avec la Bretagne, on dit bonjour au passage à Pierre Molot, ouais, voilà. Et vous avez développé aussi des sujets, c'est dans ce numéro de l'encre de mer qui ont trait à la Bretagne. Les marais salants, ce n'est pas en Bretagne. Est-ce que vous êtes pointu quand même hein?
En fait, c'est grâce à Terra Madre que j'ai rencontré les paludiers de Guérande et découvert leur histoire magnifique dans laquelle ils vont réellement protéger cette région qui était vouée à un tourisme démesuré. Et donc, les marais devaient être comblés, bétonnés. Heureusement, grâce à ces gens-là, nous avons gardé les marais de Guérande. Ils ont œuvré sur l'aspect territoire, mais également produit. Et ce qui est amusant, c'est que, en fait, ils ont pris ce qui faisait le défaut de l'époque, c'est-à-dire qu'ils faisaient du sel gris, ce qui était mal considéré, puisqu'on préférait finalement du sel bien blanc et raffiné. Et justement, ils ont montré que ce sel avait des oligo-éléments, un peu d'argile, et qu'au contraire, il était meilleur. Ils ont carrément créé la fleur de sel, qui n'existait pas comme produit, enfin, distinct. Leur sel, à l'époque, servait plus dans la pâtisserie ou pour les boucheries ou voire pour saler les routes. C'est devenu un produit que tout le monde connaît maintenant, un condiment qu'on mélange volontiers avec d'autres ingrédients. Voilà, c'est un parcours vraiment admirable et où, en fait, ce sont chaque fois des petits producteurs qui travaillent à leur mesure parce que finalement, c'est la force des bras qui limite leur production.
On ira lire tout ça parce qu'au moins, ce sont vraiment des valeurs sûres. Vous avez quelques pages qui sont réservées à des métiers. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
L'idée qu'on a eue, enfin qu'on a depuis longtemps, c'est que finalement, on importe beaucoup de produits de la mer et on oublie nos espèces qui sont peu connues ou peu valorisées pour X raisons. On a découvert qu'il y avait des restaurateurs qui avaient déjà cette démarche et qui achetaient directement aux producteurs ou aux pêcheurs. Et donc qui inventaient des préparations, qui aménageaient des recettes et qui finalement participaient à cette culture du poisson qui tente à disparaître, en tout cas en France, pas dans d'autres pays. Voilà, on a rencontré ces restaurateurs et puis également des conserveurs qui ont développé de nouveaux produits, des conserveurs de l'Île-Dieu qui fument du merlu. Un produit délicieux, coupé en lamelles dans des salades, vraiment, c'est délicieux. Un conserveur aussi du Pays Basque qui fume du thon et qui a surtout une sardine, des conserves de sardines cuites lentement à basse température. Enfin voilà, c'est des gens créatifs. Également le lycée hôtelier de Toulon avec lequel nous travaillons régulièrement et qui rencontre les pêcheurs, qui découvrent les espèces et qui apprennent à préparer autre chose que du bar, de la sole ou du turbo, voilà, qui sont les classiques de la grande cuisine, mais malheureusement qui ne se penchent guère sur les espèces oubliées.
Alors Elisabeth, puisqu'on est au bureau de poste, hein, parmi les secrets de fabrication, vous avez quand même de très bons, très bonnes photographes. Hein.
Oui, alors on a beaucoup de chance en fait pour ce journal parce que nous avons quelques passionnés, donc des photographes qui adorent photographier mais plonger et qui sont capables de rester une demi-heure sans bouger sous l'eau, que le poisson veuille bien sortir de sa cachette et se faire photographier sous son plus bel angle. Donc c'est l'association Bleu Passion avec Philippe Joachin et Alain Ponchon. Et puis depuis quelques temps, nous avons aussi Sophie Marty qui nous accompagne dans les reportages, dont on trouve qu'elle a vraiment un talent pour les portraits avec pas mal de délicatesse. Elle arrive à saisir les gens sous un aspect sympathique. On a fini en faisant les étiquettes sur du papier qu'on a scotché, en fait, tu vois les gens.